Wurde ethiek par le Premier Dominique Philippe le 3 mai 2002 à Saint-Judas.
Comment l'attitude religieuse tient-elle compte de la permission apparemment excessive de Dieu à l'égard du mal, aussi bien dans la faiblesse extrême de l'homme, dans sa volonté, que dans l'omniprésence du malheur et de l'injustice. Le scandale de Job est-il juste? C'est sûr que l'analyse du scandale de Job, il faut y revenir tout le temps. Je dirais heureusement que nous n'avons pas que cette attitude religieuse, que l'éthique religieuse comme lumière. L'éthique religieuse comme telle n'a jamais été vécue concrètement. Concrètement, l'éthique religieuse est assumée par l'éthique chrétienne. Et seule l'éthique chrétienne peut répondre à cette question. C'est pour ça que c'est très intéressant, parce que ça montre que l'éthique chrétienne permet de répondre à ça, le mystère de la croix. Le mystère de la croix, c'est la seule réponse. Dieu est infiniment miséricordieux. Et Dieu, étant infiniment miséricordieux, peut laisser l'homme, puisque c'est la liberté de l'homme qui s'agit, peut laisser l'homme aller à la folie de son orgueil et de mettre par le fait même toute l'humanité en péril. C'est l'orgueil de quelques individus qui met l'humanité en péril. C'est l'orgueil de quelques-uns, quand on pense ce qui s'est passé en Amérique. C'est l'orgueil de quelques-uns qui fait le massacre d'une quantité de personnes et qui crée un traumatisme terrible dans la plupart des hommes qui réfléchissent et qui met le monde, tout le monde, en état de péril. Comment l'attitude religieuse tient-elle compte de la permission apparemment excessive de Dieu à l'égard du mal ? Puisque Dieu pourrait l'arrêter. Et Dieu laisse au démon ce pouvoir qui va très loin, invraisemblable. Et c'est vrai, aussi bien dans la faiblesse excessive de l'homme, dans sa volonté, que dans l'omniprésence du malheur et de l'injustice. On a l'impression quelquefois, et actuellement, on a l'impression que l'injustice règne et l'emporte sur la justice. On est dans un engrenage qui fait que le monde est entraîné dans une injustice. Alors, au point de vue éthique chrétienne, la seule réponse, c'est la croix. C'est-à-dire qu'au fond, le Père a une infinie miséricorde et veut aller jusqu'au bout de cette miséricorde, laissant le mal s'imposer. Et qu'il rattrapera tout dans l'autre monde. Puisque le monde ici-bas est livré à l'injustice. Pour le chrétien, la croix du Christ lui rappelle que Jésus nous sauve en portant toutes ces injustices et en les transformant en un bonheur éternel. Et que ce bonheur éternel sera une compensation infiniment grande qui fait que sur la terre, cette injustice sera comme compensée par ce bonheur du ciel. Et ça, c'est l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne a vis-à-vis de la mort du Christ, de la croix, une lumière qui dépasse tout. Et qui permet par le fait même de tout accepter en se remettant à l'amour du Père. Mais l'éthique religieuse, qu'est-ce qu'elle peut dire sur le bonheur de l'au-delà? L'éthique religieuse peut nous montrer que l'homme ne peut pas trouver l'équilibre du mal, le dépassement du mal. Parce que c'est plus ça, c'est plus ce dépassement du mal. Pas une vie éternelle. Alors, dans quelle mesure l'éthique religieuse permet cela? L'éthique religieuse découvre la miséricorde infinie de Dieu. Là, je crois que c'est un point commun entre l'éthique chrétienne et l'éthique religieuse. Si Dieu existe, or l'éthique chrétienne découvre Dieu, elle exige de reconnaître le Créateur. Et elle s'appuie sur l'acte de création, l'acte religieux d'adoration, pour accepter la conduite de Dieu sur nous. Et que la conduite de Dieu sur nous n'est que partielle sur la terre. Dieu a le dernier mot au-delà de la terre. Et il ne promet pas, éthique religieuse, que toute justice s'établira sur la terre. Même en éthique religieuse, hein. En éthique religieuse, je suis conscient que la terre n'est pas le dernier mot de Dieu. Que le dernier mot de Dieu sera dans l'éternité. Et donc, je puis, au point de vue de ma confiance en Dieu, accepter cette injustice visible vue sur la terre, parce que Dieu conduit en vue de la fin. Dieu ne conduit pas en vue d'un bonheur humain. Si Dieu me conduisait en vue d'un bonheur humain terrestre, ce serait un scandale. Et c'est le scandale de Job. Et c'est un scandale. Mais Dieu me conduit en vue d'un bonheur éternel. Et en éthique religieuse, Dieu me conduit également en vue d'un bonheur éternel. Il est beaucoup moins précis en éthique religieuse. En éthique religieuse, il exige un abandon à la miséricorde de Dieu beaucoup plus grand. Et il est possible, c'est possible humainement de comprendre que Dieu considère le temps de la terre comme une espèce de grand novitiat. Le temps de la terre, Dieu accepte la lutte avec le démon et le démon étant beaucoup plus intelligent que nous, on est en quelque sorte sur la terre éprouvé. C'est le temps de l'épreuve pour voir jusqu'où notre confiance en Dieu ira. Je crois cela possible. Et je crois que s'il n'y avait que l'éthique religieuse, Dieu ne laisserait pas les forces du mal agir autant que maintenant. C'est curieux, ça. Mais je crois. Autrement dit, l'éthique chrétienne me permet de comprendre que Dieu traite l'homme d'une manière beaucoup plus grande, beaucoup plus magnanime que s'il n'y avait pas eu l'incarnation. En raison de l'incarnation, l'homme acquiert une dimension qu'il n'aurait pas autrement, une dimension infiniment grande. Qui permet à Dieu, le Père, de permettre à l'homme d'aller beaucoup plus loin dans la souffrance. parce qu'il peut s'appuyer sur le Christ. C'est même très éclairant, ça. C'est l'Apocalypse qui nous montrerait. Dieu peut nous révéler des choses beaucoup plus affolantes dans l'ordre des injustices. Parce que nous avons avec nous la miséricorde et la force du Christ. Il est sûr que, à cause de cela, Dieu peut aller beaucoup plus loin dans sa conduite paternelle vis-à-vis de nous. L'homme, avec Jésus, peut lutter beaucoup plus et aller beaucoup plus loin. Le martyr le montre. Parce que le martyr va en sens absolu pour une personne. Mais s'il peut aller pour une personne, il peut aller pour tout un ensemble. Et c'est ce qui arrive quand on a l'impression que les forces du mal dominent, sont plus puissantes, qu'on n'a plus de refuge sur la terre. On a toujours le cœur blessé du Christ qui est un refuge. Et le cœur blessé du Christ permet à l'homme d'aller beaucoup plus loin dans le fait de pâtir. La passion du Christ permet à la passion de tous les chrétiens d'aller beaucoup plus loin, puisqu'il s'agit d'imiter Jésus. Si le Christ n'était pas là, si le mystère de l'union hypostatique n'existait pas, je crois que, selon sa sagesse, Dieu ne pourrait pas aller si loin. Le propre du mystère de l'incarnation, de nous mettre dans une situation extrême, en faiblesse, en pauvreté. La béatitude des pauvres, hein, autrement dit, la béatitude des pauvres pourrait-elle exister dans une éthique religieuse ? Est-ce que la béatitude des pauvres n'est-elle pas la réponse à ça ? Et ne montre-t-elle pas que justement, unis au Christ, étant ses petits-enfants, ses amis, on a une capacité de pâtir, de patience, une capacité d'être rejeté, de mourir à soi, qui va beaucoup plus loin que dans l'éthique religieuse. Je crois que l'éthique religieuse ouvre très grand le mystère de la passion, qui devient le mystère propre du chrétien. Bienheureux les pauvres. Une béatitude qui ne peut être vécue que grâce au mystère de la rédemption. À ce point de vue-là, c'est très bon de poser cette question, parce que ça nous montre que le chrétien, par Jésus, en prenant Jésus comme l'exemple, le modèle du chrétien, peut aller infiniment. Il n'y a en quelque sorte pas de limite à la souffrance à cause du Christ. Et que si justement nous ne regardions pas le Christ, nous risquerions la folie. Nous serions dans une situation impossible. Le Christ seul, ayant souffert avant nous et ayant souffert pour nous. Nous permet de vivre ces états-là. Il serait invivable, impossible en éthique religieuse, qui serait, vous voyez, ce serait un héroïsme. Ce qui est vécu en vie chrétienne grâce au Saint-Esprit qui nous unit à la passion du Christ, grâce au paraclet qui nous unit à la passion du Christ, ce qui est vécu avec Jésus devient sans Jésus une attitude qui serait au-delà de nos forces. Serait quelque chose que nous ne pourrions pas vivre. Et si Dieu le demandait, il faudrait, je crois, un secours spécial du Saint-Esprit. Mais en vie chrétienne, ce secours du Saint-Esprit vous est promis. Alors, cela peut nous être demandé en vie chrétienne. L'héroïcité de la vie chrétienne est chose normale pour la vie chrétienne, puisque Jésus crucifié est notre modèle. Cela nous montre bien que imiter Jésus, imiter le crucifié, si, c'est très puissant. Cela est de l'héroïcité humaine. grâce à Jésus, grâce au mystère de l'union hypostatique, cela devient pour nous notre lien avec Jésus, notre lien avec le crucifié, notre lien, j'allais presque dire, normal. Avoir le crucifié comme modèle implique tout cela. Et c'est pour ça que le scandale de Job en éthique religieuse est compréhensible, et en éthique chrétienne demande d'être dépassé. Alors il y a comme un cordon rouge hein, qui sépare l'éthique humaine, religieuse, éthique chrétienne, puisque le modèle de la croix du Christ devient notre modèle. Et il n'est pas le modèle de l'éthique religieuse. Il est quelque chose que Dieu peut demander, mais si Dieu le demande, il faut que le concours de sa force et de sa grâce soit donné. Donc, c'est hors de la considération de l'éthique chrétienne. De l'éthique, non, c'est hors de la considération de l'éthique religieuse. Si Dieu le permet, il doit donner la grâce de vivre l'éthique chrétienne. C'est la limite. Vous voyez ? Ce serait très intéressant à creuser de voir pour nous, voir ce que Dieu peut réclamer d'un chrétien et ce que Dieu réclame constamment d'un chrétien, le martyr. La confirmation de la grâce d'être martyr uni à la croix du Christ. Et cela ne fait pas partie de l'éthique religieuse. L'éthique chrétienne fait que Dieu à creuser dans l'âme humaine une possibilité de se sacrifier, de se donner, qui va beaucoup plus loin. Et je crois que ce serait justement ce que nous pourrions voir aussi dans l'éthique religieuse, le don complet à Dieu, c'est-à-dire la vie religieuse, n'est sûrement pas un régime normal. C'est un régime qui peut exister, mais qui n'est pas normal. Donc, qui n'est pas exigé objectivement, qui n'est pas demandé exigeablement. Il peut y avoir des cas particuliers d'individus. Alors que dans l'éthique chrétienne, la vie religieuse est reconnue comme quelque chose qui appartient à la grâce chrétienne. la vie religieuse nous met dans un état qui ne peut pas se justifier entièrement dans le point de vue purement humain. Il peut être un cas exceptionnel qui peut être réclamé par Dieu comme justement une exception. Une exception qui nous montre comment la miséricorde de Dieu peut aller aussi loin. Et, tandis que dans l'éthique chrétienne, la vie religieuse, donc le sacrifice de notre vie intérieure, est réclamé par la mort du Christ. Je crois que les deux problèmes s'éclairent quand on les voit comme ça en parallèle. Et au fond, ça nous montre que l'éthique religieuse implique quelque chose qui la dépasse, qui peut la dépasser. Parce que cette éthique religieuse, parce que religieuse, et donc regardant Dieu, peut nous mettre dans un état de dépendance vis-à-vis de Dieu qui exige un abandon total. Dieu peut toujours exiger un abandon total. Donc, individuellement, personnellement, cela n'est pas contre l'éthique religieuse, tandis que ça devient objectif, ça peut être comme établi, comme un état de vie du côté de l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne va permettre d'institutionnaliser ce qui, en éthique religieuse, ce serait uniquement des cas particuliers. C'est pas contre nature. Et c'est inscrit d'une certaine manière dans l'adoration. Puisque l'adoration peut impliquer des sacrifices d'animaux. Pour exprimer quelque chose d'absolu pour celui qui les offre, mais qui ne se réalise pas en nous, mais qui se réalise dans des êtres plus petits. Je crois que c'est ça qu'il faut voir dans l'éthique proprement religieuse. Il y a comme des quantités de souhaits, d'appels qui ne peuvent pas se réaliser comme des intentions, et qui peuvent continuer d'être dans le cœur de l'homme comme un souhait, comme un appel. Puisque Dieu ne change pas quand il s'agit de l'éthique religieuse, d'éthique chrétienne. Le Père est toujours le Père. Mais la différence, c'est que l'éthique chrétienne nous montre le moyen d'atteindre la paternité de Dieu d'une façon beaucoup plus intime, puisqu'on l'atteint par l'intermédiaire de Jésus. Et donc on l'atteint comme le Père qui est Père de tout. Tandis que dans l'éthique religieuse, cela demeure possible, mais cela n'est pas normal, en quelque sorte, n'est pas habituel, puisque cette éthique religieuse reste imparfaite. C'est du reste pour ça, je crois, qu'elle n'a jamais existé pleinement. Indépendamment du point de vue chrétien, on voit bien des aspirations à cette éthique religieuse. Et on voit bien certains aspects et quelquefois même des monstruosités, des choses à côté. Ce qui montre que l'éthique religieuse n'est pas assez déterminée et assez déterminante pour nous donner. C'est peut-être ce qui serait la signification quand le Christ dit « Je suis la voie, je suis le chemin ». Parce que l'éthique religieuse comme telle ne nous donne pas cette voie. Alors, c'est laissé aux individus, suivant qu'ils sont plus ou moins religieux, plus ou moins pris par la grandeur du mystère de Dieu. Jésus est la voie, le chemin, parce qu'il va nous montrer une détermination très grande sur tous ces points qui n'étaient pas déterminés en éthique religieuse. C'est peut-être cela qui nous montre le mieux, Jésus disant « Je suis la voie, la vérité, la vie ». C'est que toutes ces indéterminations d'éthique religieuse vont être déterminées par le Christ d'une manière éminente. Ça ne peut pas être déterminé plus parfaitement que par le Christ. Et c'est déterminé. Ça nous aide à comprendre le sens précis, je suis la voie, la vérité. La vérité, on comprend ce qu'est Dieu. La voie, c'est parce que l'éthique religieuse comme telle ne peut pas déterminer cela. Elle l'appelle comme une chose extraordinaire, très grande, mais elle l'appelle uniquement